Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcaggi.
Le sport, c'est incontestable, est aujourd'hui et de loin le premier événement à être retransmis à la télévision et désormais sur Internet partout à travers le monde. En tête, les Jeux Olympiques, avant même la Coupe du Monde de football et le Tour de France, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place des événements les plus regardés à travers le monde. C'est ce que David Stubbs, le directeur du développement durable des Jeux Olympiques de Londres, appelle une possible démonstration à l'échelle planétaire de ce que peut être le développement durable.
Le profil des Jeux nous permet à monter un programme de développement durable qui peut toucher le monde entier. Quand on dit, c'est une démonstration de développement durable à une grande échelle, également dans le contexte de Londres et aussi au niveau mondial. Alors, nous avons 205 nations participantes, nous avons 10 500 athlètes olympiques, se nombrés deux fois par les médias, il y a 9 millions billets, et par la télévision, on parle aux millions de gens autour du monde. Quelqu'un va environnement toucher autant de monde.
Les Jeux Olympiques, émissaires planétaires du développement durable, surtout quand le message coince par ailleurs, c'est la logique voulue par David Stubbs, le développement durable, pas seulement sous son aspect environnemental, mais une vision d'ensemble de ce qu'est en fait le développement durable, David Stubbs.
On a dépollué les rivières, décontaminé le sol, créé de nouveaux sites, des bâtiments très efficaces au niveau de l'énergie, des déchets, tout ça. Ça, c'est très important, mais pour moi aussi, il y a un deuxième objectif global, c'est le comportement.
Cette semaine, dernière ligne droite, vient justement d'être adoptée la norme 2012.1, a priori technique, mais concrètement désormais, tous les événements, grands, petits, organisés quelque part au monde, devront répondre à cette norme unique. Une norme calquée sur le standard britannique, BS 8901, une victoire en soi que cette norme 2012.1. Souvenez-vous-en, London, annoncé par Juan Antonio Samaranch, alors que Paris avait un dossier vert bien ficelé. Eh bien au moins, il n'aura pas fallu attendre 20 ans pour qu'une norme internationale soit adoptée. Et puis il y a ce quartier est de Londres, la rivière en particulier rendue à la biodiversité, le village olympique qui sera ensuite une université, là où les nations peinent à croire que le sport y arrive. C'est du reste bel et bien, à l'aune de ce constat, qu'Edwige Avisa, ministre déléguée à la jeunesse et au sport sous François Mitterrand et aujourd'hui présidente de la Fondation du sport français, ce n'est pas un hasard si cette fondation est dédiée à l'innovation sociale par et dans le sport, a entrepris de longue date cette démarche qui est éminemment politique.
Les Jeux Olympiques, c'est une vitrine internationale où effectivement quelques dimensions du développement durable sont prises en compte, et pas toutes évidemment. C'est pas du sport pour tous, hein. Les JO, c'est de l'excellence, c'est des championnats, c'est tout ça. Mais à l'occasion des Jeux Olympiques, dans le monde entier, on a cherché effectivement à créer des vitrines d'innovation. Et de plus en plus d'ailleurs, ces vitrines d'innovation se tournent vers les questions écologiques. Donc qu'il s'agisse des sols sportifs, qu'il s'agisse des nuisances sonores, des énergies renouvelables, de la dépollution des sites, je l'ai vu à Pékin pour commencer, mais à Londres c'est le cas également. Il y a énormément de sujets qui concernent évidemment la dimension écologique. Je me rappelle du dossier parisien, bon c'est Londres qui l'a emporté, mais le dossier parisien insistait beaucoup sur la convivialité, sur l'humanisme, sur la solidarité entre les peuples, c'est clair, enfin ça fait partie de la dimension olympique de Coubertin, ça, tout à fait. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, avec le développement du paralympisme, cette dimension va s'accentuer. Il y a également ce qu'on peut faire pour les citoyens d'une ville qui accueillent les Jeux ou d'un pays pour le recyclage de ces Jeux. Donc il y a manifestement toute une série de possibilités afin de rendre les Jeux plus humains.
On doit à Edwige Avisa notamment la loi éponyme qui a sorti le sport français de sa structure patriarcale. C'était en 1984. Avant, le sport en France était chapeauté par l'État. Depuis, les fédérations sportives proches du terrain ont endossé cette mission de service public que représente et incarne aussi le sport. Edwige Avisa.
Le développement durable, pour moi, c'est le développement humain. C'est l'IDH, le fameux développement humain du PNUD. donc que j'enseigne d'ailleurs à mes propres étudiants. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer dans cette affaire la question des ressources humaines. Et dans les ressources humaines, il y a bien sûr la population jeune ou moins jeune qui est en plus ou moins bonne ou mauvaise santé. Et donc le sport est un argument pour la santé publique absolument évident aujourd'hui et démontré, y compris d'ailleurs pour le soin de pathologies graves. Donc c'est tout à fait important. Et puis la lutte contre l'exclusion, qui fait partie pour moi du développement durable, qui est d'ailleurs contenue dans l'agenda 21 du sport français que le CNOSF a voté. La prise en compte des personnes handicapées. Aussi le soin particulier à apporter au sport féminin, parce que les femmes, pour des motifs de vie, se trouvent assez régulièrement à l'écart. À la Fondation du sport français, on travaille aussi sur les exclusions par le chômage, pour vous donner une illustration concrète. C'est évidemment une dimension aujourd'hui qui occupe 90% de l'espace à la Fondation du sport français.
Londres, même si rien n'est parfait, pour la première fois dans l'histoire, des Jeux olympiques s'inscrivent ouvertement sous le signe du développement durable. Plus aucune rencontre sportive ne se permettra de se sentir dispensée d'en faire autant. Autre impulsion, en France, face aux portes qui refusaient de s'ouvrir, Nathalie Durand n'a pas renoncé. Cette consultante a choisi de fonder, sous la forme d'une association, l'Observatoire du sport et du développement durable. Eh bien, elle travaille désormais main dans la main avec les fédérations et les autres principaux partenaires du sport. Nathalie Durand.
La thématique du développement durable, alors là en France, hein, même si déjà depuis longtemps avec Tokia Saifi, on avait une secrétaire au développement durable, elle a vraiment pris tout son sens sous le gouvernement précédent, donc avec la mise en place de la stratégie nationale du développement durable, déclinée en stratégie nationale développement durable du sport, le CNOSF qui a mis en place l'agenda 21 du mouvement olympique. Et donc, on est vraiment sur un nouveau courant. Les entreprises, une entreprise maintenant de plus de 500 salariés qui est obligée de faire un rapport développement durable, les collectivités locales, elles aussi, qui ont ses obligations. Donc, on change de temps et bien évidemment, le fait d'être entendu dans les années 2000 et en 2006 n'est pas du tout le même. Maintenant, les gens ont envie d'outils. Et au-delà de l'Observatoire, je suis consultante en sport et développement durable. Et on m'attend pour des outils précis de méthodologie, comment j'identifie cette vision, qu'est-ce que ça veut dire dans mes missions en termes de plan d'action et puis également en termes d'indicateurs.
Le sport propice à certaines valeurs, les de mon capitaine, confère l'argent brassé par les jeux, par le football aussi. Et en même temps, ces règles de comportement sportive, elles forment en soi un dénominateur commun qui en plus fait rêver. Le sport a en lui les excès d'une société et en même temps a déjà développé les principaux outils du développement durable, Edwidge Javis.
Altus situs fortius, ça devient plus cher, plus grand, plus médiatique. Et vous répondez, plus humain, plus accessible, plus naturellement collectif. Et le thème du développement durable vous permet de canaliser tout ça. Parce qu'à travers ce thème du développement durable, vous cherchez à rétablir de manière pertinente une échelle de valeur. Puisque si on applique tout ce qui est contenu dans l'agenda 21, et pas seulement celui du sport, on voit bien qu'on s'en éloigne quand même assez largement quand on s'occupe des Jeux Olympiques d'aujourd'hui, de la masse financière que ça. Et cet éphémère qui n'est pas durable, dont vous avez tous parlé. Et puis, vous cherchez aussi, à travers ce concept, à rétablir une perspective économique, s'arrête pas au lendemain, à moyen terme, et établir une cohésion, pas toujours une cohésion sociale, parce que c'est pas si simple à faire, mais une cohésion sur une démarche partagée, comme notre interlocuteur londonien a essayé d'en faire la preuve à travers tout ce qu'il a dit.
Les Jeux, à moins d'être touchés dans sa vie personnelle, il est vrai, c'est l'un des moments où l'on voit le plus de nos congénères aux prises avec la difficulté, le handicap, se dépasser, pour faire souvent d'ailleurs mieux que nous. C'est un Anglais justement, Sir Ludwig Goodman, médecin neurologue de Londres, qui eut l'idée d'organiser dès 1948 les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés pour réhabiliter par le sport les vétérans et victimes de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. C'est depuis 1988, depuis Séoul, que les Jeux paralympiques se déroulent dans la même ville que les Jeux. Alain Kakpo concourt pour les Jeux paralympiques, ses spécialités, le sprint et le saut en longueur.
Je suis militaire blessé en service. Une grenade défectueuse qui m'a explosé dans la main en 2004. Je suis resté 5 ans dans mon régiment. Après, j'ai été repris en tant que civil pour la défense au Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau. Je me suis mis à l'athlétisme en 2009, simplement par curiosité. J'ai fait 3e au championnat de France sur ma première compétition. Et donc, j'ai été repris par le cercle sportif de l'Institution Nationale des Invalides pour préparer les Jeux Paralympiques de Londres. Le goût de la compétition, il est né déjà il y a quelques années, je faisais de la boxe en compétition. Après mon accident, j'ai cherché à retrouver ces sensations et maintenant l'athlétisme me procure encore des sensations différentes. Parce qu'il y a l'handicap en plus et d'autres valeurs qui sont rajoutées à tout ça. Les Jeux Paralympiques, ça favorise l'insertion des handicapés. Les gens nous voient différemment, compte tenu des performances qui sont réalisées. Et oui, je pense que ça aide les gens à changer leur regard sur les personnes handicapées. Bon, ça épanouit forcément, ça aide à accepter. L'handicap est toujours présent, mais ça aide vraiment. Moi, mon but, hein, c'est forcément d'être médaillé. De monter sur la marche la plus haute du podium, je me suis préparé pour ça et j'espère que ça se passera comme je le souhaite.
C'était Alain Kakpo, athlète spécialiste du sprint et du saut en longueur. Et le fleuret, ce fut la seule arme jamais autorisée aux femmes jusqu'au 19e siècle. Le fleuret qui est aussi la seule arme à n'avoir jamais connu les champs de bataille. Astrid Guyard est architecte de véhicules spatiaux chez EADS. Elle fait partie de l'équipe de France de fleuret. Elle est qualifiée pour les épreuves individuelles et collectives. Justement, pour cette femme qui navigue entre deux milieux hautement compétitifs, professionnels et sportifs, eh bien, l'essentiel, elle le dit spontanément, c'est l'humain. Astrid Guyard.
Moi, j'intègre le développement durable dans ma démarche sportive en fait, à travers les aspects humains, le développement humain de manière durable, à travers des valeurs de solidarité, de fraternité, de partage et de tolérance. Pour ça, le village olympique, je pense que c'est vraiment un symbole parfait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui viennent d'horizons différents, de cultures, de religions différentes, dans des contextes géopolitiques qui sont parfois opposés. Mais voilà, le temps des Jeux, c'est 15 jours, dans une unité de lieu parfaite qui est le village, tout ça s'efface.
Le monde est un village, pas toujours olympique. Difficile de vivre ensemble le quotidien. C'est pourtant le pari réussi à Aubervilliers, en banlieue parisienne, le Boxing Beats. Saïd y entraîne filles autant que garçons à la boxe anglaise. Sarah Ouramoun fait Sciences Po et part pour les Jeux Olympiques de Londres. Et oui, la boxe féminine figure désormais pour la première fois aux Jeux Olympiques. Jean-Pierre Armanet, il vient de réaliser La rage et la passion Boxing Beats Aubervilliers, première diffusion sur France 4 dès le 25 juillet.
Dans chaque boîte crânienne, il y a un cerveau. Il faut aller jusqu'au bout avec. Il faut que ça dure dans le meilleur état de conscience possible. Et ce sport, la boxe, joue essentiellement sur la conscience de son énergie, de la maîtrise de son énergie, de la nécessité physiologique de distribuer des coups, parce que dans la vie, on est obligé de distribuer des coups, quelle que soit sa profession ou son statut social, et en même temps d'accepter que l'autre aussi va vous en donner. Je trouvais ça énigmatique, jusqu'à temps que je vois ce sport dans sa pratique. Pour moi, il y a une conduite à tenir toute sa vie en fonction de ses paramètres, de partager ma violence avec celle de l'autre.
La boxe au féminin, oui, c'est un sport paradoxal, parce qu'on s'imagine toujours que la boxeuse, ça va être quelqu'un qui va être défiguré, que obligatoirement c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour faire des études. Or, on s'aperçoit que c'est complètement le contraire. Ce sont de ravissantes jeunes filles qui restent parfaitement intactes. Et Sarah dit, à propos de la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un certain apprentissage assez technique. Il ne s'agit pas de se casser la figure, il s'agit au contraire de trouver une stratégie, trouver une tactique qui consiste à bien comprendre son adversaire et donc à faire marcher sa tête. Et gagner, ça consiste à d'abord faire marcher sa tête. Et il faut s'entraîner physiquement, certes, pour pouvoir parer les coups, mais il ne s'agit pas de prendre des coups ou d'en donner, il s'agit simplement de toucher sans être touché, parce que c'est stratégique. C'est en cela que c'est intéressant, c'est en cela aussi que ça peut effectivement s'adresser aux femmes. Et tous ces jeunes sportifs, eh bien, ils se dépassent tous dans ce sport, comme dans un autre, mais dans ce sport particulièrement, parce que ça a canalisé une certaine violence qui était la violence de l'exclusion. Et cette fois-ci, ils ne sont plus exclus. Ce sont des jeunes qui sont maintenant bien intégrés dans notre société, quel que soit leur diplôme ou leur métier. Ils sont heureux, ils sont contents de vivre, ils vivent en groupe et ça leur donne de l'assurance. Ça leur permet de continuer leur chemin intelligemment.
Louis Radius, lui, concourt à la fois aux Jeux olympiques et paralympiques. C'est possible, une ambivalence, comme il l'appelle, qu'il porte sur son terrain professionnel, qui est le développement du sport durable.
Louis Radius, athlète sur 1500 mètres et 5000 mètres aux Jeux olympiques de Londres, et en valide, et 400 mètres en handisport. Voilà, donc je joue sur cette ambivalence, donc le monde handisport et le monde valide, où j'ai un très bon niveau en niveau national en Fédération Française d'Athlétisme, et j'évolue aussi en Fédération Française Handisport, dans la section athlétisme, voilà, où je fais partie des meilleurs mondiaux aussi, mais dans la discipline qui est le 400 mètres. Comme je m'occupe au ministère sport de tout ce qui est handicap, sport santé, je communique justement sur cette ambivalence qu'on peut jouer sur les deux tableaux et de travailler sur ça, sur ce projet handivalide. Donc ça, c'est en tant que sportif, c'est de transmettre de valeurs de réussite, de valeurs conquérantes. Et là, dans ma casquette d'agent de l'État, c'est que nous, on travaille sur des développements durables, surtout sur les manifestations et événementiels sportifs, sur le recyclage des déchets, notamment sur les événementiels sportifs tels que le Paris-Versailles, tels que le Paris-Boulogne, sur les courses hors stade, par exemple. Voilà, ou ça peut être aussi des manifestations sur le traitement des fluides pour les manifestations à moteur. Au niveau du département du 78, par exemple, on a fait une charte sur le développement durable. Charte du développement durable, c'est l'accessibilité, par exemple, au sport au plus grand nombre, donc les femmes, le handicap. Moi, mes missions, c'est travailler sur le sport santé, c'est-à-dire l'insertion des personnes dans une pratique sportive, sport et handicap, l'obésité, le surpoids, les maladies et les femmes. Parce qu'il y a certaines disciplines où les femmes ne sont pas représentées, malheureusement, ou très peu. La boxe en fait partie, donc c'est une étape. Voilà, je pense à la boxe, au rugby, au foot.
Les personnes obèses sont exclues du sport?
Oui, aussi, c'est comment accueillir les jeunes en surpoids ou en obésité. Après, il y a des centres comme le centre Billon dans le 78 qui accueillent ce type de personnes, mais c'est à titre de prévention, on n'inclut pas forcément le sport. Ils font de l'éducation physique, mais ils ne font pas une pratique en continuité et assidue tout au long de l'année.
Le physique, le corps humain, la santé et la maladie. Avec Rêve, l'association Un maillot pour la vie emmène des enfants malades à Londres. Depuis 2010, depuis sa création à Toulouse, Un maillot pour la vie a fait rencontrer un millier de sportifs de haut niveau à 30 000 enfants atteints de pathologies graves, leucémie, cancer, diabète sévère, maladies rares. Caroline Vesser, elle est directrice régionale pour le nord de l'Île-de-France de Un maillot pour la vie.
Un maillot pour la vie travaille avec 90 services de pédiatrie dans toute la France. Et donc on a tissé des liens très forts avec ces médecins et ces pédiatres. Ce qu'on fait depuis l'origine, donc depuis septembre 2000, c'est d'emmener les sportifs de haut niveau à l'hôpital, rencontrer les enfants et leurs familles. Et ils passent 2h30 à 3h ensemble autour de jeux ludiques et interactifs et d'initiation sportive. Et ensuite, on les emmène sur les terrains de sport à la rencontre des idoles. Ce sont surtout les footballeurs qui inspirent les enfants. Zidane, notre équipe de France avec Nasri, Benzema, les joueurs du Real Madrid et de Barcelone. Mais il y a également les sports olympiques et le rugby, puisque c'est notre ADN. Tout a commencé à Toulouse, donc le stade toulousain est avec nous. Et Fabien Pelous, l'ancien capitaine de l'équipe de France et notre parrain national. Frédéric Michalak, Imanol, Médard sont aussi des parrains forts. Et dans les sports individuels, on a les escrimeurs qui sont avec nous, comme Laura Flessel. En athlétisme, on a Muriel Urtis et Romain Ménil. Et également en judo, on a Frédéric Jossinet, Lucie Decosse, en natation Camille Lacour et tout le cercle des nageurs de Marseille qui nous soutiennent depuis l'origine.
Le Tour de France accueille quant à lui des enfants malades sur le Tour depuis 2007. Fabio Cancellara, Laurent Jalabert, Raymond Poulidor, Thomas Veuclair, le sport et l'engagement, peut-être cela va-t-il de soi, grâce à la générosité dans l'effort impérative pour faire des sportifs de haut niveau. En tous les cas, preuve médicale et donnée que le sport diminue le risque de rechute des maladies les plus sévères. Edwige Javis.
Je voudrais faire un point particulier sur les sports de combat, parce que figurez-vous que la lutte contre le cancer pour les femmes, et avec un taux de rémission intéressant, c'est avec les sports de combat. Qui lui dit ? La Camille, le professeur Bouillet et quelques autres, ce sont des expérimentations connues, avec déjà un peu d'épidémiologie et déjà un peu de cohorte, parce qu'il faut avoir une cohorte pour vérifier si ça marche. C'est avec les sports de combat. J'en étais la première étonnée, mais c'est comme ça. Et ce sont des cancers féminins qui sont accompagnés, si vous le voulez, avec ce type de discipline, avec des taux de rémission intéressants et d'amélioration intéressants. On ne peut peut-être pas généraliser, mais quand même, ça vaut la peine. encore une fois, une innovation.
Développement durable et environnement, oui bien sûr, le cadre naturel accueille plus d'une manifestation sportive. Exemple, les championnats d'aviron, ils auront lieu en 2015. Rémi Charmetan, président du comité d'organisation de ces championnats, qui se dérouleront à Aiguebelette. Aiguebelette, un véritable joyau de la nature, à 10 km de Chambéry.
L'aviron, c'est un sport de pleine nature, donc sa ressource principale, c'est l'eau, l'eau qu'on boit. Au lac d'Aiguebelette, on boit l'eau, l'eau qui sert à irriguer les cultures, l'eau qui sert à se rafraîchir, à se laver et l'eau qui sert à prendre du plaisir à travers les sports de pleine nature. Et d'ailleurs, il y a un accord entre la Fédération internationale d'aviron et le WWF, justement sur le thème de l'eau. Le lac d'Aiguebelette est un lac naturel, c'est un sport de pleine nature dans un cadre naturel, donc il faut absolument que ce cadre naturel reste magnifique, parce que sinon on scie la branche sur laquelle on est. Moi je dis que les grands projets d'organisation sportive, c'est l'éphémère au service du durable. En gros, les Jeux Olympiques, c'est 7 ans de préparation, 15 jours de fête, et puis un an de démontage, et tout ça pour une génération. Parce que ce qu'on fabrique à travers les JO, on laisse des traces qui durent une génération entière, et donc ça c'est du durable, et il faut que ça soit du durable positif.
Le sport, peut-il être la quadrature du cercle que l'on cherche? Dans la paix par le sport, Joël Bouzou, médaillé olympique et ex-champion de pentathlon moderne, fondateur de Peace and Sport, se souvient des stages sportifs auxquels enfant il participait, organisés entre la France et l'Allemagne pour évacuer les rancœurs. Il préconise, par exemple, la création d'un corps d'ingénieurs de la paix par le sport. Il souligne que le sport a atteint un stade de maturité qui en fait plus qu'un simple miroir de la société, qu'il dispose des moyens d'être un principe de politique universelle. Adhésion plus spontanée de la jeunesse, école des vertus quand les bancs de l'école vous relèguent au banc de la société, violence canalisée, le sport est le formidable levier d'un aller et retour permanent entre l'individuel et le collectif. Les Jeux Olympiques eux-mêmes ont su transformer des règles de guerre en règles de paix, un dossard qui n'est pas étranger à ce qui nous préoccupe aujourd'hui.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.